Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Rocchini, Samuel Bernard, mais aussi Caroline Bonin et Léa Mormin-Chovac, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Yanis Djoudad. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler de politique américaine. La semaine dernière, le président américain a essuyé un nouvel échec cinglant en ne parvenant pas à faire passer son projet de réforme du système de santé. S'il est resté relativement muet, à part sur Twitter, bien sûr, où il continue régulièrement de poster des messages, c'est son vice-président, Mike Pence, qui s'est chargé de la communication, expliquant que l'abandon de l'abrogation de l'Obamacare est une victoire du statu quo, disait-il, mais que bientôt les promesses faites aux Américains seraient tenues et que la nouvelle administration Trump prendra bientôt sa grandeur à l'Amérique, reprenant évidemment le slogan de campagne. Mais faire campagne est une chose, conduire les réformes en est une autre. Et visiblement, ce nouveau recul, après le blocage par la justice de ces décrets migratoires, illustre une certaine naïveté peut-être, une certaine méconnaissance aussi des rouages du pouvoir. En effet, le New York Times soulignait la précipitation dont avaient fait preuve les républicains qui ont expédié, disait-il, une parodie de loi sans passer par le processus laborieux des auditions et la construction d'une coalition. Voilà ce qu'on lisait dans la tribune. Alors Donald Trump pourra-t-il mettre en œuvre son programme comme il l'avait promis? N'a-t-il pas sous-estimé la marge de manœuvre dont il dispose après avoir promis le grand changement? Va-t-il finalement revoir à la baisse ses ambitions? Le mandat de Trump sera-t-il finalement celui de l'immobilité? Voilà la grande question autour de laquelle nous allons nous interroger ce matin. Pour ce faire, deux invités avec nous en plateau. D'abord, Annick Cizel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Steven Ekovitch également, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'Université américaine de Paris. Avant d'évoquer ces questions américaines dans quelques instants, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit tout de suite revient d'Irak, c'est Alan Caval. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alain Caval, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, correspondant à Erbil du journal Le Monde. On vous reçoit pour une série d'articles parus dans Le Monde, mais aussi dans le supplément du Monde de ce week-end. Vous étiez récemment à Mossoul, on va commencer peut-être avec ça, cette ville du nord de l'Irak, toujours tenue par l'État islamique, mais qui fait l'objet d'une reconquête progressive de la part d'une force hétéroclite, l'armée irakienne, des forces kurdes, des milices chiites, mais aussi des entités arabes sunnites. Ça fait désormais plus de 5 mois maintenant que la reprise de cette deuxième ville du pays est lancée. En quelques mots, commençons par ça, Alain Caval. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel est l'état des rapports de force et à quelle échéance est-ce qu'on peut espérer que la ville sera débarrassée des djihadistes?
Bien, concernant l'échéance, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que les forces irakiennes ont avancé depuis le début de l'année à l'ouest de Mossoul, sur la rive droite de Mossoul, et qu'elles sont aujourd'hui vraiment aux limites de la vieille ville de Mossoul. Or, le problème, c'est que contrairement à la rive est et contrairement aux quartiers de la rive ouest qui ont déjà été pris, la vieille ville de Mossoul présente un bâti beaucoup plus dense, une population également qui est beaucoup plus dense, des ruelles beaucoup plus étroites, dans lesquelles l'État islamique a pu, au cours des deux dernières années et demie, se barricader, a pu en faire une citadelle, en réalité, qu'il défendra certainement jusqu'au dernier combattant, et qui présente un vrai défi, aussi bien d'un point de vue militaire, puisque les forces irakiennes seront dans un environnement urbain extrêmement délicat à aborder, mais aussi du point de vue des pertes civiles, sachant qu'effectivement, la densité de population dans cette zone est beaucoup plus importante.
Oui, c'est la partie est de la ville qui a été libérée en janvier dernier. C'est donc la partie occidentale qui reste à libérer, la plus densément peuplée. D'ailleurs, les humanitaires sont assez inquiets parce qu'ils vont commencer à s'attaquer, si je puis dire, à la vieille ville qui est un réseau de toutes petites ruelles. Et finalement, le pire est à venir d'une certaine manière. D'où votre réponse. On ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre parce que le plus difficile est devant nous encore.
Absolument, tout à fait.
Lundi 20 mars dernier, vous vous trouvez à l'hôpital de la ville. Il y a un véhicule des forces antiterroristes irakiennes qui rentre dans la cour de l'établissement. À l'intérieur, deux jeunes enfants, un garçon de 8 ans et une petite fille, 6 ans. Tous deux se retrouvaient sous les décombres d'une maison après qu'elle ait été pris pour cible dans une explosion. Les parents et les frères n'ont pas survécu. Qu'est-ce qui s'est passé? qui sont les responsables de ces morts et qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, les civils servent de bouclier à Daesh? C'est ça la situation?
Oui, absolument. Depuis le début de cette offensive, l'État islamique a utilisé les populations civiles comme des boucliers humains. Déjà, quand les combats avaient lieu dans la partie est de la ville, un certain nombre de familles, de civils avaient été déplacés de force par l'État islamique vers la partie ouest pour justement rendre beaucoup plus difficile finalement la progression des forces irakiennes, mais aussi les frappes aériennes qui appuient cette progression. Dans la mesure où il y a tout de même des règles d'engagement strictes de la part de la coalition qui sont censées éviter les morts civiles. Or, on a affaire à des belligérants qui se combattent dans un milieu urbain encore une fois, extrêmement dense et toujours peuplé. Ce qui fait que, de fait, lorsque vous avez deux djihadistes qui décident de prendre position sur un toit, qu'une frappe va être commandée, il est difficile de savoir combien de personnes vivent en dessous, combien de personnes vivent dans ce quartier.
Et lorsque c'est ce qui la s'est frappe passé
va
avec
être
ses enfants.
C'est ce qui s'est passé notamment dans ce cas-là. Mmh. Et lorsque la frappe va être décidée, pour des raisons militaires, eh bien, elle va se traduire par évidemment des morts civiles importantes.
Est-ce qu'il y a des efforts qui sont déployés pour essayer d'exfiltrer ces civils?
Alors, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que ces civils vivent dans une zone de combat. Et que eux-mêmes essayent de s'exfiltrer de ces zones de combat et de rejoindre les positions de l'armée irakienne. Lorsqu'ils arrivent à les rejoindre, ils sont ensuite exfiltrés, soignés s'ils sont blessés, évacués vers des camps. Simplement, il faut qu'ils sortent de cette zone. Et les djihadistes eux-mêmes, et ça a été relaté par des habitants de Mossoul à plusieurs reprises, lorsque j'y étais, sont pris pour cible, enfin les djihadistes prennent pour cible les personnes qui fuient ces quartiers. Une fois que vous fuyez un quartier qui est tenu par l'État islamique, une fois que vous fuyez une zone de combat où l'État islamique est présent, vous êtes considéré par les djihadistes comme étant passé à l'ennemi et donc comme étant une cible légitime.
Comment ça se passe quand ils parviennent finalement à s'échapper? En ce moment, on parle d'un rythme absolument colossal. On dit qu'il y a 10 000 déplacés par jour aujourd'hui. Alors, on ne sait pas très bien quel est le total, mais on parle de 400 000 déplacés. Comment est-ce qu'elles sont traitées? Dans quelles conditions vivent aujourd'hui ces déplacés de Mossoul?
À la mi-mars, effectivement, on parlait de 10 000 déplacés par jour. Il y a de fortes chances que ce soit accéléré depuis lors. Il y a deux choix. Enfin, il y a le choix qui se présente aux habitants de Mossoul lorsqu'ils fuient la ville, c'est soit d'aller habiter dans des camps qui sont souvent surchargés, même si les acteurs humanitaires déploient des efforts considérables pour tenter de répondre à cet afflux constant et important de population. Des camps qui sont parfois à certains égards insalubres, pas nécessairement équipés de la meilleure façon qui soit, du fait même de leur occupation très importante, ou alors de rester pour certains dans la ville, au risque, même si leurs quartiers ont été libérés, de recevoir dans leur cour, sur le toit de leur maison, des mortiers, de recevoir des balles perdues. Il y a encore des civils qui meurent en dehors des zones de combat à cause de ces effets de la bataille en cours. Donc oui, effectivement, pour les civils qui fuient Mossoul, les conditions sont évidemment difficiles.
Qui sont aujourd'hui les forces qui libèrent justement Mossoul? C'est la police fédérale, c'est les forces de réaction rapide du ministère de l'Intérieur qui dépendent directement de Bagdad. Pour le moment, c'est ça.
Tout à fait. L'est de la ville avait été libéré exclusivement par les forces antiterroristes qui ont bénéficié d'un entraînement extrêmement poussé, notamment dirigé par les États-Unis. Sauf que ces forces donc antiterroristes ont subi des pertes importantes à l'est et que pour la reprise de l'ouest, il a fallu faire appel évidemment à d'autres forces. Donc il y a toujours les forces antiterroristes, mais il y a également, comme vous l'avez évoqué, la police fédérale et ces forces de réaction rapide.
Bien moins entraînées visiblement.
Moins entraînées ou en tout cas entraîner d'une manière différente et certainement moins sensible au sort des populations en question.
Ça veut dire qu'ils utilisent des armes et des stratégies peut-être disproportionnées par rapport à la menace qui est en face, c'est ça?
Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une utilisation de certains armements, notamment l'organisation Human Rights Watch a dénoncé l'utilisation par la police fédérale de roquettes improvisées qui sont fabriquées en Irak, qui sont extrêmement puissantes mais très imprécises. Et donc, qui sont utilisées dans les quartiers où qui sont encore contrôlés par l'État islamique, mais qui ne peuvent pas avoir un usage, leur usage n'est pas discriminé, je veux dire, c'est un usage qui va nécessairement se traduire par des dégâts au-delà des simples cibles militaires qui sont visées.
Alan Kaval, avant d'en venir aux luttes interkurdes, parce que là aussi, il y a des batailles internes qu'il faut absolument évoquer. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Mossoul sera libéré? Qui va gérer la sécurité de la ville? Est-ce qu'il y a déjà des négociations, des discussions sur cette question-là? Et quelles sont les options concrètement?
Bien, l'aspect politique de la gouvernance de Mossoul après la bataille a toujours été un problème majeur qui s'est posé dès les premiers préparatifs militaires. Mais jusqu'à présent, l'aspect militaire a pris le pas sur cet aspect politique. Donc, il n'y a pas réellement de schéma qui soit prévu pour faire en sorte d'avoir une gouvernance qui soit effectivement peut-être plus juste ou plus représentative, ou en tout cas qui soit moins sujette à produire des tensions ultérieures. Là, vraiment, on s'est concentré sur le militaire, au risque de voir l'aspect politique des choses se dégrader une fois les opérations terminées.
Alors, un peu plus tôt dans le mois de mars, à Ankaval, vous étiez à Sinoni, dans la région de Sinjar, non loin de la frontière avec la Syrie, une région libérée du joug de l'État islamique qui avait été pris au Peshmerga, ce qui avait entraîné, on s'en souvient, un exode massif, notamment des Yézidis, sans compter évidemment les massacres et autres mises en esclavage des femmes, on en avait parlé régulièrement. En novembre 2015, les Kurdes lançaient une contre-offensive pour récupérer justement cette région. Et aujourd'hui, ce que vous avez constaté sur place, c'est qu'il y a une véritable tension à l'intérieur même des communautés kurdes. Il y a d'un côté le PKD irakien, les Kurdes irakiens, et puis le PKK turc. Et ces deux entités se disputent le contrôle de cette zone.
Oui, absolument. Il faut savoir que lorsque le PDK irakien, qui contrôlait la zone de Sinjar, s'est retiré de cette zone et a laissé l'État islamique en prendre le contrôle à l'août 2014, les forces liées au PKK, parti effectivement issu de la communauté kurde de Turquie, mais ayant une présence dans l'ensemble des zones kurdes de la région, et qui à l'époque déjà dominait les zones kurdes de Syrie voisines de Sinjar, avait fait une incursion en Irak, dans le but de secourir les populations yézidis qui étaient encerclées à ce moment-là par l'État islamique, de les évacuer vers la Syrie, puis vers l'Irak. Mais le PKK a profité de ces circonstances pour également s'installer au Sinjar, politiquement et militairement, pour construire une présence militaire, mais également pour mettre sur pied une base politique et un système politique conforme à son modèle idéologique. Ce qui, évidemment, a provoqué une réaction très négative du PDK, parti qui était dominant anciennement à Sinjar et qui, entre-temps, était revenu sur place. Donc, en fait, il y a à Sinjar, aujourd'hui, ces deux formations kurdes qui ont des modèles de gouvernance tout à fait différentes, des intérêts tout à fait différents et des alliances tout à fait différentes. Il faut savoir que le PKK en question, qui est présent à Sinjar, donc au nord de l'Irak, est en guerre contre la Turquie. Et que le PDK, parti kurde irakien, a une alliance stratégique, un partenariat stratégique avec Ankara. Donc cette question de Sinjar, où il y a effectivement une lutte à Sinjar, une lutte d'influence qui parfois est très locale, qui va se jouer au niveau du village, qui va se jouer au niveau parfois de certaines familles qui vont être divisées les unes avec les autres, qui va s'impliquer dans des conflits d'intérêts très locaux, en fait, est connecté à des dynamiques et à des problématiques régionales.
Oui, vous écrivez sous le couvert d'une assemblée populaire du Sinjar et d'un chapelet d'organisations locales censées poser les fondements d'un territoire autonome pour les Yézidis. Le PKK y construit une enclave politique régie selon son idéologie, semant partout les portraits de ses martyrs. Donc on voit qu'il y a cette idée de s'imposer avec ce projet politique. Et en face de ça, on a un PDK irakien qui, lui, a mis en place finalement un système clientéliste, c'est-à-dire qu'il a mis la région sous embargo. Il faut comprendre ça. Expliquez-nous.
Absolument. Justement, pour éviter que le PKK ne voit son influence grandir au sein de la population, donc yézidi de Sinjar, les yézidis sont kurdophones, mais c'est une communauté qui a sa propre identité, distincte de l'identité kurde. Et donc, lorsque le PKK a mis en place, enfin, pour éviter que le PKK ne voit grandir son influence, le PDK, effectivement, qui contrôle les routes qui mènent à Sinjar depuis le nord de l'Irak, depuis le Kurdistan irakien, a effectivement mis en place un embargo notamment sur les matériaux de construction, un embargo sur un certain nombre de produits, y compris les produits de base, de telle sorte que la reconstruction de Sinjar soit impossible, dans l'idée que, effectivement, tant que le PKK serait là, tant que le PKK serait présent, la population de Sinjar ne pourrait pas retourner à sa vie antérieure et retourner à une forme de normalité pour inciter la population de Sinjar à chasser le PKK de ses terres.
Et alors justement, comment réagissent les yézidis? Comment est-ce qu'ils se positionnent entre ce PKD irakien et ce PKK
turc?
C'est-à-dire
que la majorité des yézidis de Sinjar conservent effectivement une certaine, une certaine colère vis-à-vis du PDK qui a en quelque sorte abandonné leur région de Sinjar en août 2014. Cela étant, le PDK irakien a des arguments qui sont effectivement financiers, des arguments qui sont également politiques. Il peut s'agir de trajectoires individuelles, de personnes qui vont souhaiter obtenir un certain nombre d'avantages et qui vont rejoindre le système mis en place par le PDK, tandis que d'autres, au contraire, souhaitent effectivement que leur région de Sinjar soit autonome du Kurdistan irakien, souhaitent que leur identité yézidi soit respectée en tant que telle, ne souhaitent pas être annexés à ce Kurdistan irakien qui a ses velléités d'indépendance, et voient dans le PKK éventuellement une forme d'opposition, une forme d'alternative à cette domination exercée par le PDK, domination qu'ils ont connue depuis 2004.
Ouais, donc ils s'appuient politiquement sur le PKK.
Mais dans la réalité des faits, la population de Sinjar qui est largement traumatisée, qui a été en partie massacrée, qui a été en tout cas qui a vu sa société, cette communauté qui s'est vue brisée par la guerre contre l'État islamique et du fait des exactions menées par l'État islamique, se trouve toujours, effectivement, prisonnière d'intérêts qui ne sont pas directement les siens, mais d'acteurs extérieurs. D'accord. Aussi bien le PDK que le PKK.
Et puis les yézidis, vous le disiez, s'appuient sur le PKK, et en même temps, il y a des choses qui leur posent problème, notamment parce que le PKK turc recrute dans ses rangs de jeunes yézidis, et ça, évidemment, ça ne leur plaît pas beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'un conflit ouvert pourrait être entamé entre le PKK turc et le PDK irakien?
Alors, il y a des signes de confrontation qui sont déjà montrés. Le 3 mars, le 3 mars, effectivement, une force militaire elle-même composée de Kurdes syriens, mais affiliée à ce PDK irakien, a tenté de s'approcher d'une localité de Sinjar, Khan Asor, qui est contrôlé par le PKK. C'est traduit par des affrontements, des accrochages qui ont duré plusieurs heures, qui ont fait des morts. Et finalement, on a vu se tracer entre les zones d'influence PKK et les zones d'influence PDK à Sinjar une forme de ligne de front. Il n'y a pas eu de nouveaux affrontements, il y a eu des manifestations qui se sont encore une fois traduites notamment par la mort d'une personne, mais il n'y a pas encore jusqu'à présent un affrontement ouvert. Des accrochages certes, une tension qui monte certes, mais jusqu'à présent on reste dans une forme de paix armée qui risque à chaque fois de
basculer. Parce que par ailleurs, le principal ennemi pour l'un et pour l'autre se situe ailleurs, évidemment.
Pour l'instant, mais à mesure que l'État islamique recule, les tensions entre les Kurdes eux-mêmes risquent de s'accroître.
Il faut évoquer aussi, peut-être un tout dernier mot, la question du pétrole, parce qu'évidemment cette région nord elle est très importante, parce qu'il existe des réserves colossales de pétrole, notamment autour de Kirkouk. Ça fait des années que ces ressources font l'objet évidemment de lutte entre le gouvernement de la région autonome kurde et le gouvernement de Bagdad. L'arrivée de Daesh, on l'a vu, a totalement bouleversé les équilibres qui étaient définis jusqu'alors. Les forces du gouvernement de Bagdad s'étaient retirées assez rapidement, laissant donc ces factions kurdes seules aux commandes, ce qui leur a permis de prendre d'ailleurs le contrôle d'un certain nombre de sites pétrolifères. Aujourd'hui, évidemment, les Kurdes veulent garder cet avantage, garder ce contrôle-là, et Bagdad veut en revanche remettre la main sur une partie de cette manne pétrolière. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces équilibres? Comment se répartit cette manne pétrolière dans cette région-là?
Eh bien, c'est-à-dire que depuis que les forces irakiennes effectivement ont quitté la zone de Kirkouk, la rivalité n'est plus tant entre les Kurdes d'Irak et le gouvernement à Bagdad, mais entre les factions kurdes elles-mêmes. Dans la mesure où à Kirkouk coexistent deux factions kurdes. Le PDK, dont on parlait tout à l'heure, qui est également présent, c'est la limite est de sa zone d'influence, et l'UPK, qui est présent dans l'est du Kurdistan irakien. Or, le PDK contrôle les champs pétroliers de Kirkouk, ou en tout cas les principaux champs pétroliers de Kirkouk, ceux qui sont les plus productifs. Là où l'UPK contrôle le territoire, si le PDK contrôle une partie du sous-sol, l'UPK, lui, contrôle la surface, en quelque sorte. Et donc, effectivement, c'est une situation qui se traduit par des tensions importantes, dans le sens où l'UPK veut aussi, en quelque sorte, sa part de ses richesses, et veut pouvoir avoir accès directement à leur exploitation. Et il y a un certain nombre d'événements qui ont lieu au cours des dernières semaines, notamment début mars, le 2 mars, lorsque des forces armées affiliées à l'UPK ont pris le contrôle d'installations pétrolières en vue de faire pression sur le PDK pour qu'ils puissent renégocier leur exploitation de ces richesses. Donc en réalité, on voit aujourd'hui que Kirkouk, qui a été effectivement, un objet de convoitise entre Kurdes irakiens et État central irakien devient un objet beaucoup plus complexe, avec des acteurs différents, et en réalité devient le creuset, enfin le carrefour plus exactement, de toutes les lignes de fractures irakiennes. Vous avez cette ligne de fracture entre partis kurdes, vous avez encore une fois, comme à Sinjar, une présence du PKK qui est très importante, qui veut se porter en alternative vis-à-vis de ces anciens partis kurdes. Vous avez également, toujours au sud de Kirkouk, une enclave de l'État islamique qui a été, où les djihadistes sont toujours présents et qui n'a pas encore été visé par des opérations militaires. Et vous avez enfin une présence accrue très importante de milices chiites qui sont directement affiliées, pour certaines, à l'Iran, et qui construisent également, avec les populations turkmènes chiites de cette zone, une base d'influence qui s'oppose directement également aux intérêts des Kurdes, et de certains Kurdes, encore une fois. Donc c'est un objet extrêmement complexe, avec une variété d'acteurs qui ont émergé, qui se sont renforcés, en quelque sorte, sur le double retrait à la fois de l'État irakien, puis de l'État islamique.
Merci beaucoup, Alan Caval, pour ces éclairages ô combien importants. Je rappellerai que vous êtes journaliste, vous écrivez pour Le Monde. On peut vous lire sur le site dumonde.fr, mais aussi dans le supplément du Monde de ce week-end. Un grand merci, Alan Caval, d'être passé dans nos studios.
Merci.
On va quitter progressivement l'Irak pour se tourner du côté des États-Unis. Après l'échec de la réforme de la santé et le blocage du Muslim Ban, le mandat de Trump sera-t-il finalement celui de l'immobilité ?
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et oui, alors que c'était l'une des grandes promesses de campagne, le nouveau président américain a finalement dû abandonner son projet, en tout cas pour l'instant, son projet de réforme du système de santé. Il a perdu sa première grande bataille législative après qu'une coalition hétéroclite, composée de démocrates mais aussi de républicains frondeurs, a refusé de balayer l'Obamacare d'un trait de plume comme Trump l'avait promis.
L'Obamacare est le problème des démocrates. Il sera annulé et remplacé presque simultanément. On était tout près du but. Il manquait une très courte majorité, mais nous n'avons aucun vote démocrate. Donc il est difficile d'obtenir un résultat.
Nous n'avons pas de majorité pour changer la loi. Donc nous allons continuer à vivre avec l'Obamacare. Je ne sais pas le temps qu'il faudra pour remplacer cette loi.
Et oui, c'était Paul Ryan qu'on entendait à l'instant, président de la Chambre des représentants, et puis évidemment Donald Trump juste avant. Alors comment comprendre que cette réforme ne soit pas passée alors que les républicains l'ont si régulièrement critiquée, que révèle ce rejet des divisions internes du parti républicain, et de quelle marge de manœuvre dispose le président pour engager les autres réformes? Et si la mandature de Trump, qu'on annonçait révolutionnaire, n'avait pas vraiment le goût de la rupture tant promise, puis si l'action de la nouvelle administration américaine était finalement condamnée à être marquée par le sceau de l'immobilisme? Voilà la grande question qu'on va se poser ce matin. Annick Cizel est avec nous. Rebonjour Annick Cizel, maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et Steven Ekovitch, professeur à l'université américaine de Paris. Marc Semo, notre partenaire du Monde, comme chaque vendredi. On commence avec vous Marc. Ça fait presque 10 semaines que le président est désormais à la Maison Blanche. On approche doucement, tout doucement, des fameux à barre des 100 jours, les 100 premiers jours, qu'on dit souvent déterminants, où le président bénéficie normalement d'une sorte d'état de grâce juste après l'élection. Le bilan, des décrets migratoires rejetés par la justice, une réforme de la santé rejetée par les parlementaires. Pour l'instant, on est quand même assez loin de la révolution qu'on nous avait annoncée, hein, Marc.
Eh oui, Donald Trump découvre un peu ce que Silvio Berlusconi en Italie avait découvert en son temps, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué de diriger un pays que de diriger une entreprise. Une entreprise, quand vous êtes le patron d'un grand holding, globalement, vos ordres sont suivis au doigt et à l'œil. En politique, hein, et notamment dans une démocratie comme les États-Unis, il y a un réel système d'équilibre des pouvoirs. Il y a aussi, les députés n'obéissent pas, ou les sénateurs, enfin dans le cas d'une espèce des sénateurs, ou les membres de la Chambre des représentants, n'obéissent pas au doigt et à l'œil, au non plus, il faut jouer de la persuasion et tout, et c'est ce qu'il est en train de découvrir. Mmh. Alors ce qu'on voit déjà, c'est que ce 45e président des États-Unis est le plus impopulaire en début de mandat de toute l'histoire américaine, il est à 37-38% selon un peu une moyenne des sondages, d'où par ailleurs, son effet de surenchère, de prendre des mesures choc qui flattent son électorat, c'est un leader populiste, donc il dit « voilà, je tiens mes promesses ». Alors on l'a vu avec le Muslim Ban, bon, qui a été bloqué là par la justice, on l'a vu aussi avec ces dernières ordonnances où il raye d'un trait de plume l'essentiel des mesures qu'avait pris l'administration Obama au niveau des États-Unis, en interne de la lutte contre le réchauffement climatique, alors notamment réhabilite le charbon. Là, il a posé en photo avec des mineurs, qui était aussi une autre de ses promesses. On verra ce qu'il en sera. Est-ce que réellement il ira jusqu'à quitter l'accord de Paris? On verra. Mais là aussi, son secrétaire d'État, Rex Tillerson, au moment de ses auditions devant le Sénat, disait non, nous restons dans l'accord de Paris. Donc voilà, on verra ce qu'il en est. Mais le vrai problème, je pense, et je finirai là-dessus, c'est surtout la confusion. Il y a une énorme confusion dans l'administration Trump. Lui-même s'informe avec la télé et dit et revendique ne jamais lire un rapport de plus d'une page. Voilà, il fait des tweets. Alors, il y a des gens qui travaillent bien, hein, notamment, on le voit au niveau du secrétaire à la Défense, ou même, d'une certaine façon, du secrétaire d'État. Et puis, la Maison-Blanche ne tranche pas, on l'a vu, sur la Syrie, même si, finalement, l'ambassadrice à l'ONU vient d'annoncer un tournant avec le fait, voilà, le départ de Bachar el-Assad n'est plus une priorité.
Il faudra évidemment parler politique étrangère, parce que, là aussi, on ne voit pas beaucoup de signes de rupture. Mais il faut commencer par faire un petit peu de politique interne. Annick Cizel, pourquoi Trump finalement a échoué sur cette réforme de la santé? Est-ce que c'est lié au fait que certains républicains voulaient garder ce système actuel? Ou est-ce que c'est aussi une manière peut-être de signifier au président qu'il ne pourra pas conduire le pays sans compter sur eux?
Je crois qu'on est en train d'assister à la continuation, en fait, d'une forme de paralysie. Je vais commencer par le Congrès, avant de revenir au cas de la Maison-Blanche. On a vu pendant les trois quarts des deux mandats de Barack Obama, un Congrès républicain entre 2010 pardon, et 2016, on a vu un Congrès républicain accroître sa majorité et malgré cela ne pas parvenir, hors exception, à même contourner le veto du président Obama, c'est-à-dire ne pas parvenir à mener une politique cohérente sur des questions sociales qui auraient pu être réformé déjà avant même l'immense majorité républicaine qu'ils vont acquérir aux élections de novembre 2016. Donc il y avait déjà des tensions internes, et les tensions que l'on voit criantes aujourd'hui, qui font qu'il n'y a pas eu un accord unanime des républicains sur la réforme de l'Obamacare. On avait déjà les prémices de cela avant le raz-de-marée républicain dans tous les pouvoirs contre-pouvoirs, effectivement, du système fédéral en novembre 2016. Ceci étant, aujourd'hui, la question, c'est effectivement le pilote dans l'avion. C'est-à-dire, c'est effectivement la vision politique ou l'absence de vision politique de Donald Trump ou l'absence d'une vision politique claire, nette, qui puisse donner une ligne directrice à son Congrès et qui, du coup, renforce... au nom de l'imprévisibilité, au nom de cette imprévisibilité qu'il a tellement revendiquée après son élection, renforce les lignes de partage au sein du Parti républicain, ne permettent pas forcément un ralliement, alors évidemment pas sur l'abrogation de l'Obamacare, mais sur d'autres sujets, ne favorisent pas forcément un ralliement des démocrates conservateurs, puisqu'il y a des conservateurs au sein des élus démocrates également, donc ça ne favorise pas non plus une espèce d'approche centriste qui aliénerait peut-être une partie du Parti républicain, mais permettrait de construire des consensus. On a effectivement un manque d'expérience politique, et quand je dis un manque d'expérience politique, je pense amateurisme. C'est-à-dire qu'on a un président à la Maison-Blanche qui ne connaît pas du tout les rouages du Congrès, qui apprend petit à petit, qui n'a pas fini de remplir...
En même temps, il faut lui laisser un peu de temps. Il l'apprend aussi. Obama, c'était une des choses qu'il avait dit aussi, c'est qu'il n'avait pas mesuré combien il était difficile de réformer avant d'arriver à la Maison-Blanche. Donc, mettons ça aussi au crédit. Voilà.
Totalement.
On ne peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'est pas aux affaires.
Et c'est le travail de Mike Pence, c'est le travail que son vice-président est en train d'essayer de faire un maximum. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'au sein des différents départements, des différents ministères actuellement, un nombre conséquent de postes ne sont toujours pas pourvus. C'est-à-dire que la machine fédérale n'est pas encore totalement en place. Donc les 100 jours, c'est très court dans ces conditions.
Stephen Ekovitch, première réaction aussi, ce que révèle effectivement ce rejet de la réforme du système de santé, c'est l'extrême division du camp républicain. Est-ce que vous pensez que Trump a les clés pour gérer ces divisions du Parti républicain?
Je ne crois pas. Il faut jamais perdre de vue que c'est un système fédéral aux États-Unis. Et chaque projet de loi exige la construction par la Maison-Blanche d'une nouvelle majorité. Donc la politique locale prime, et si on maîtrise pas toutes ces rois, ces complications de politique locale, on va se buter contre des chapelles diverses ou des forteresses diverses. Donc en effet, même un président qui avait une certaine expérience des rouages, comme Barack Obama, même un tel président avait des difficultés, aura des difficultés à faire passer ses projets de loi.
Donc il ne parviendra pas à se débarrasser.
Mais ces présidents-ci a particulièrement davantage de problèmes, parce qu'en effet, il connaît très très peu ce qui se passe à Washington. On peut se demander même dans quelle mesure son entourage proche maîtrise aussi le système, ou dans quelle mesure son entourage proche tente de canaliser, de réinterpréter, de recadrer un président qui va dans tous les sens.
Alors on a ces ultra-conservateurs qui sont réunis sous la bannière du Freedom Caucus, donc ce sont eux qui sont opposés à cette réforme-là. Est-ce qu'ils seront opposés à tous les autres projets importants de Barack Obama? Il y avait évidemment ce nouveau programme d'investissement de 1000 milliards de dollars, il y a la réforme du système fiscal, il y a plein de... Est-ce que ces grosses réformes-là seront aussi bloquées par ces ultra-conservateurs?
Je crois que les élus, même des deux chambres, sont en train de sauver leur peau. Dans la mesure où ils estiment que ce président va les emmener dans le mur, ils vont au fur et à mesure lâcher prise sur ce président. Et ça commence dans les circonscriptions, dans les États où Barack Obama a gagné, mais cette fois-ci Donald Trump a gagné, comme dans le Michigan, dans le Wisconsin quand le Wisconsin, les républicains commencent à avoir peur, parce que on a les élections tous les deux ans, les mi-mandats arrivent bientôt, et dans la mesure où les élus républicains peuvent sentir une perte de leur pouvoir, là, ils vont avoir davantage de courage pour affronter ce président.
Je vous donne la parole dans un instant, Marc Semo, mais Annick Cizel, pour poursuivre un petit peu sur ces futures grandes réformes, la prochaine grosse réforme qui arrive sur la table, il l'a annoncé Donald Trump, c'est la réforme fiscale. Est-ce que dans ce contexte, vous pensez qu'elle se profile de façon concluante pour Donald Trump, ou ça vous paraît difficile?
Ça me semble de plus en plus compliqué, parce que je souscris tout à fait à ce que Stephen Akovitch vient de dire. Un nombre certain de postes de gouverneurs sont dans la balance dans moins de deux ans maintenant, en novembre 2018. Les démocrates sont en train de réactiver une campagne électorale très puissante en direction, effectivement, de ces postes, parce que l'impopularité de Trump peut faire basculer, non pas le Sénat, etc. Les démocrates ne se font pas trop d'illusions, mais au niveau de ces postes de gouverneurs, c'est dans un système aussi décentralisé que le système fédéral américain, c'est fondamental sur la mise en place des réformes sociales, notamment, à l'intérieur de chaque État. Donc, on voit également des signaux à la Maison-Blanche de rééquilibrage, de tentatives de dialogue un peu plus avec les démocrates. Et certains démocrates sont en train d'entendre le message également. À ma grande surprise, je lisais ce matin qu'il y a déjà deux sénateurs démocrates qui sont en train de soutenir la candidature de Neil Gorsuch à la Cour suprême, alors qu'on s'attendait à un blocage démocrate parfait. Et clairement,
Trump va trouver des alliés chez les démocrates.
Apparemment, c'est ce qui sortait ce matin. Ouais. Donc, il semblerait que des discussions soient en train de se faire et des signaux également. Un autre signal vient d'apparaître au Conseil national de sécurité où l'adjointe d'Ina Powell, l'adjointe de H.R. McMaster, qui a remplacé le général Flynn à la tête du Conseil national de sécurité, est une conservatrice qui a travaillé sous des administrations républicaines avant, mais est perçue comme une démocrate et potentiellement conservateur démocrate, je pense, Hillary Clinton au niveau de sa politique étrangère. Donc, quelqu'un qui pourrait construire des ponts vers certains démocrates au Sénat. En d'autres termes, je pense que l'animal politique Donald Trump n'a pas dit son dernier mot, mais qu'il est en train d'essayer de reconstruire une autre coalition, décloisonnant les lignes partisanes, et on retrouve Trump dans sa campagne, complètement hors norme, non conformiste. Animal politique.
Oui. Mais ça serait très difficile. Hein.
Est-ce qu'il n'y a pas justement des réformes qui pourraient être unificatrices, notamment au niveau du camp républicain? Alors, y compris par exemple ce fait d'avoir effacé les mesures sur le climat de l'administration Obama et d'autres choses similaires qui peuvent justement d'une certaine façon amener les républicains à s'unir, sur lequel ils sont plus ou moins tous d'accord.
Sur les réformes fiscales, c'est un peu le cas.
Et justement, dont la réforme fiscale.
Les conservateurs sont à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut baisser les impôts.
Et qui lui permettrait de reprendre la main, au moins symboliquement.
La législation fiscale en place est très, très compliquée, très complexe. Ça serait très, très difficile de la remanier. Donc là aussi, je crois que ça serait très difficile pour Donald Trump, au moins dans le court terme, d'avoir une victoire. Le Parti démocrate, les élus, sent qu'il y a un président affaibli. Dans quelle mesure les adversaires démocrates vont venir au secours d'un président affaibli, même dans la perspective éventuellement de remanier certains projets de loi proposés par la Maison-Blanche. Sur Neil Gorsuch, cet revirement est moins pour, accepter un candidat à la Cour suprême qui est très conservateur, mais de protéger une procédure législative qui est le filibuster. Pour l'instant, il faut 60 voix pour accepter un candidat à la Cour suprême. Donc, il faut brasser large, il faut quelques voix toujours de l'opposition. Mais une possibilité, c'est pas constitutionnel cette procédure de blocage parlementaire, c'est une question de réglementation interne au Sénat. Donc c'est possible que les Sénats balayent cette nécessité de 60 voix. Dans ce cas-là, le Parti démocrate voit à très court terme une victoire qui était une victoire pyrrhique parce que de toute façon, le Parti républicain peut faire passer Gorsuch, mais en balayant le filibuster qui exige 60 voix, ça veut dire qu'il faut juste une simple majorité. Et il y aura une autre vacance, il y aura une autre dans l'avenir proche, parce qu'il y a un certain nombre de juges de la Cour suprême qui sont très âgés. Et donc, s'il ne faut qu'un simple majorité à l'avenir, les républicains peuvent faire passer un candidat de la Cour suprême beaucoup plus conservateur que Gorsuch.
Annick Cizel, je reviens sur ce que disait Marc Semeau, à savoir l'idée qu'effectivement, il y a peut-être des réformes sur lesquelles il pourrait réunir son camp conservateur. C'est vrai que le Freedom Caucus, par exemple, sur la question des investissements, le fameux programme des 1000 milliards de dollars, on sait qu'ils sont opposés parce qu'ils ne veulent pas de déficit budgétaire. En revanche, sur la réforme des impôts, ils veulent tous baisser les impôts, et notamment les impôts sur les sociétés.
Ou même sur le climat,
c'est vrai. Sur le climat, c'est peut-être un peu différent. Mais en tout cas, sur l'impôt sur les sociétés, visiblement, il y a un vrai front conservateur. Ça serait une manière, effectivement, de remettre tout le monde dans le rang.
Sauf que Trump vient de balayer le Freedom Caucus d'un tweet récemment, en disant qu'il n'est plus d'accord avec eux. Je m'interroge. J'étais en train de chercher un exemple d'une politique même bipartisane, s'il arrivait à le négocier au Congrès, qui pourrait remporter un soutien à la fois du Parti républicain et d'une partie du Parti démocrate. J'étais en train de réfléchir à la réforme de l'accord de libre-échange nord-américain, dont les deux partis sont d'accord qu'à l'heure qu'il est, il serait nécessaire de le renégocier. Après, ils ne sont pas d'accord sur dans quel sens le renégocier. Mais s'il arrivait à injecter suffisamment de protection des droits des travailleurs, de protection du droit du travail, dans une réforme qui ne soit pas ultra-libéral sur un plan et hors cadre de l'OMC, ce qui pourrait aussi être la tendance de Trump actuellement et ce qui ne ferait même pas l'unanimité au sein du Parti républicain. Mais il y aurait des marges de manœuvre. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que s'il est effectivement en train d'essayer de décloisonner les lignes partisanes et en refusant les ultra-conservateurs, en essayant de recentrer aussi sans doute sous l'influence d'Ivanka, aussi sans doute sous l'influence de cette espèce de bunkerisation familiale qu'il est en train de mettre en place à la Maison-Blanche, mais dont on sait que certaines influences visent à un recentrement, on pourrait envisager des négociations au sein du Congrès. Après, la question, c'est est-ce que Donald Trump est la bonne personne pour mener ces négociations ? Et s'il le délègue à son vice-président, il est évident que Mike Pence, lui, est un conservateur qui va faire passer la ligne républicaine telle que le parti républicain, l'establishment républicain, souhaite qu'elle passe.
Abordons peut-être la question de la politique étrangère. Hier, l'éditorialiste du Monde, Alain Frachon, écrivait sa chronique hebdomadaire sur la politique étrangère de Donald Trump, rappelant les promesses de ce candidat à propos de l'État islamique, qu'il allait écraser sous un tapis de bombes, expliquant qu'il fallait s'allier à Poutine pour en finir avec le conflit syrien. Il écrivait la chose suivante, Alain Frachon. Une fois aux commandes, ayant eu la sagesse de confier le département d'État et celui de la défense à deux adultes, Rex Tillerson et James Mattis, il a mis ses pas dans ceux d'Obama face aux djihadistes, au djihadisme moyen-oriental, la politique de Trump se résume en un mot, continuité. La politique de Trump s'inscrit dans les pas de son prédécesseur ? Stephen Yanukovych?
Dans l'ensemble, c'est pas facile de changer, de faire virage sur une politique étrangère. Il y a des intérêts en place, il y a des obstacles du réel politique qui existent à l'extérieur. Il y a aussi toutes les l'État exécutif qui a ses intérêts aussi, qui protège ses intérêts. Le Pentagone va protéger ses intérêts, le département aussi va protéger ses intérêts. Donc, pour n'importe quel président, c'est très, très difficile de changer le bord dans une politique étrangère, étant donné que tous les obstacles extérieurs ainsi qu'intérieurs.
Alors, il y a quand même quelque chose sur lequel Trump a changé, et puis je vous donne la parole, Marc Sémot, mais il y a une quinzaine de jours, le Wall Street Journal révélait que Donald Trump avait secrètement donné à la CIA de nouveaux pouvoirs pour conduire des frappes de drones contre certains suspects de terrorisme. Ils ont été utilisés, notamment ces frappes sur le numéro 2 d'Al-Qaïda en Syrie, et la nouvelle administration a donné son feu vert pour mener des frappes et des opérations commando sans avoir à demander l'autorisation préalable de la Maison Blanche. Et ça, c'est un véritable tournant par rapport à l'administration Obama, durant laquelle, on se souvient, il y avait un processus de validation intergouvernementale avec cette fameuse liste de personnes à éliminer, cette blacklist. Là, Trump, visiblement, ne considère pas que la guerre soit une chose trop grave pour la confier à des militaires. Pour reprendre la phrase de Clémenceau, Annick Cizel, les militaires vont désormais jouir d'une plus grande latitude.
Lorsque nous écoutions votre collègue journaliste tout à l'heure nous expliquer les frappes de l'État islamique et le drame que vivent les populations civiles à Mossoul, j'étais en train de penser exactement à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'augmentation des frappes de drones, l'augmentation des décès dans la population civile, là où les États-Unis sont en train d'intervenir dans les airs, en Syrie, au Yémen, et bientôt en Somalie, puisque le président Trump vient de demander l'autorisation également d'étendre les frappes de drones au large des côtes somaliennes contre le groupe Al-Shehab dans la région, c'est-à-dire de mettre en place, de concrétiser cette fois-ci sa promesse de campagne. Il avait promis qu'il allait lâcher des tapis de bombes sur tout ce qui ressemblait à du terrorisme djihadiste international, et c'est précisément ce qu'il est en train de monter en puissance. Avec des questionnements qui, là, pour cette fois, ont été balayés. J'ai le souvenir sur ce même plateau d'échanges à propos de la guerre au Yémen et des atermoiements du président Obama, atermoiements des décisions que le président Obama était en train de prendre sur la fin de son mandat pour se désaligner de l'Arabie Saoudite et du nombre de plus en plus conséquent de pertes civiles liées à une guerre brutale. Je ne sais pas si une guerre, ça n'est pas brutale en temps normal, mais à une guerre aux limites du droit international, et où les États-Unis sous Obama s'interrogeaient sur une possible complicité, entre guillemets, et une possible mise en accusation des États-Unis au-delà d'une ligne rouge du droit international au Yémen. Et on se rapproche, curieusement, en tout cas dans les déclarations d'intention et les mains libres données, effectivement, à la CIA récemment, on se rapproche à nouveau de cette ligne rouge, mais sans le discours et sans les précautions que le président Obama, en fin de mandat, souhaitait prendre.
Il ne faut pas oublier que c'est Obama qui a augmenté d'une façon très, très importante.
Les frappes de drones. Parce que est-ce qu'on n'est pas finalement dans une continuité? Alors effectivement, c'est une version beaucoup plus beauf, beaucoup plus violente, mais c'est quand même une continuité. Et d'une certaine façon, on peut dire que le fait de faire jouer un espèce de principe de subsidiarité, c'est-à-dire que la prise de décision se fait au niveau des états-majors, etc. Bon, c'est une manière aussi de laisser des gens qui sont quand même plus ou moins plutôt compétents, ou du moins dans les dossiers, et de se décharger de ça. Et on le voit pareil sur la politique sur la Syrie. Il dit maintenant ouvertement que le départ de Bachar al-Assad n'est pas la priorité, mais c'était de fait déjà.
Il dit pas ça, il dit que c'est plus un préalable.
Ce n'est plus une priorité.
C'est plus une priorité.
Voilà. Mais c'était déjà de fait la position de l'administration Obama.
La différence étant que l'administration Obama envoyait John Kerry à chacune des négociations sur la Syrie. La première négociation, l'ouverture des négociations à Astana, les États-Unis ont été invités, n'étaient pas présents. C'est-à-dire qu'on a dans le même temps une délégation de leadership sur la question syrienne à la Russie, de leadership diplomatique à la Russie, avec petit à petit un pivot qui est en train de se faire semaine après semaine. Cet après-midi, finalement, Rex Tillerson à la tête du département d'État, sera présent à Bruxelles pour discuter avec l'OTAN, il était question qu'il n'y soit pas.
Ah oui, il y a quelques jours encore, on pensait qu'il n'y serait pas.
Donc on a petit à petit, mais jour après jour, un rééquilibrage où les États-Unis se réimpliquent dans la diplomatie internationale, mais se désimpliquaient. Donc là, on n'est plus dans la continuité du tout avec l'administration Obama.
Ça, c'est une fonction de manque de fonctionnaires au plus haut niveau, encore une fois. Donc, je crois que c'est moins un choix stratégique que le fait que, au sommet de l'État, du ministère des Affaires étrangères, le département d'État ou au Pentagone même, il n'y a pas assez de dirigeants qui peut emmener une inflexion de la Maison-Blanche dans la politique étrangère.
Notamment, vous coupez massivement les crédits de la diplomatie, par ailleurs.
On est d'accord, mais ça c'est à venir. Mais il y avait eu un accord pendant les deux mois de transition qu'un certain nombre de hauts responsables au département d'État, au ministère de la Défense, resteraient en place pour assurer la continuité dans les temps difficiles que nous vivons.
La machine tourne.
Que beaucoup avaient donné leur accord et que beaucoup ont ensuite démissionné, laissant les places vacantes et avec une énorme difficulté de recrutement, effectivement, au moins au département d'État, moins à la Défense, où le général Matisse semble être mieux accepté par la communauté.
Steven Akovitch.
Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, on est dans une incohérence invraisemblable. Il n'y avait pas un lumière de cette état de grâce de cette présidence. Il a aujourd'hui une cote de popularité de 35%, et ce 35%, c'est vraiment le noyau dur républicain. Il est tombé jusqu'à là. Et là, même ce noyau dur commence à se fragiliser. Dans quelle mesure cette incohérence, d'une façon générale, touche sur toute la politique, que ce soit politique extérieure, politique de la défense, politique sécuritaire, on peut se poser les questions.
Maximo.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque, justement, parce que finalement, au niveau notamment de la défense, il a fait des nominations plutôt sensées, même si c'est des républicains durs, mais c'est des gens compétents, etc. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque que ces gens, rapidement, se lassent de cette situation où un Trump, finalement, ne tranche pas ou n'en fait qu'à sa tête, et où on se retrouve dans une situation avec des gens beaucoup plus dangereux et beaucoup plus amateurs dans des postes clés de défense et de politique étrangère?
C'est-à-dire qu'il y a des limites, effectivement, au non-conformisme. Quand on voit le président Trump inviter Xi Jinping à Mar-a-Lago, j'allais dire pas à Camp David, enfin, il n'y a pas de raison de l'inviter à Camp David, mais quand on voit ce souci permanent de briser les codes de la diplomatie internationale, il est évident que ça ne rassure pas le corps diplomatique. Il est évident que ça ne rassure pas l'administration centrale, disons, des questions de politique étrangère et de défense. Ça introduit une inconnue qui nous fait réagir en Europe, mais qui fait réagir au sein même de la structure pérenne du système diplomatique et de défense des États-Unis. Donc ça insécurise aussi, et ça peut agacer assez rapidement des gens qui ont une carrière derrière eux, qui n'attendent pas après ces postes ministériels. Le général Flynn est parti, et sans doute aussi dans un compromis avec le général Matisse. Quand Matisse a été nommé après Flynn, chronologiquement, il y avait des vraies questions sur est-ce que les deux anciens généraux vont s'entendre. La réponse a été non, il y en a un des deux qui est parti. Effectivement, on peut se poser des questions sur la pérennité de certaines nominations.
Steven Akovitch, et puis je voudrais revenir un instant sur l'OTAN, mais je vous en prie, Steven
Akovitch. Oui, on apprend aujourd'hui que le départ de Flynn est touché beaucoup plus qu'un sur un conflit interne avec un autre général.
On est d'accord.
Parce qu'on est dans une enquête très grave aujourd'hui sur dans quelle mesure la campagne et la transition de Trump étaient en complicité avec la Russie. Donc, c'est une autre faiblesse qui guette cette présidence. Et c'est très grave.
Il y a un risque d'impeachment réel?
Il y a un risque d'impeachment, en effet. Mais encore une fois, il faut que ça soit... Les républicains ne vont pas être d'accord, sauf... il faut un certain nombre de républicains.
Par exemple, les élections de mi-mandat se passent très mal, est-ce qu'on peut pas imaginer sauver leur peau
Même avant, si les sondages donnent un désastre électoral avant, on peut avoir certaines défections dans le camp républicain de cette présidence.
Donc ça ne vous semble pas improbable? Impossible.
Non, c'est pas improbable.
Ah ben bah alors, moi je pensais vraiment qu'il irait quand même jusqu'au bout. Je ne m'en réjouissais pas, ni ne. Mais enfin, je pensais qu'il irait jusqu'au bout.
Je pense également. Non, je pense également que le Parti républicain a trop bien gagné ces élections et avec effectivement les nominations à la Cour suprême qui potentiellement s'annoncent dans les 3 ans à venir. Je pense qu'ils ont beaucoup à perdre. Sauf vraiment, il faudrait vraiment que le mi-mandat soit un désastre. Ouais. Et je ne pense pas que ce sera à ce point un désastre. Moins une victoire que ce qu'ils auraient pu avoir.
Mais il peut gagner la même chose avec un président Pence, hein.
un tout petit point, un dernier point, on arrive vraiment à la fin de cette émission, mais vous parliez tout à l'heure de l'OTAN, vous rappeliez que Rex Tillerson, finalement est, mais aurait dû ne pas être à cette fameuse réunion de l'OTAN, des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles. Finalement, il va être là. Est-ce que là aussi, ça veut dire que, après toutes les inquiétudes qu'on a eues, en particulier en Europe, après ces déclarations de Donald Trump sur cette OTAN obsolète, désuète, etc., là aussi, l'administration Trump revient dans les pas de son prédécesseur?
On vient de voir un Sénat américain avalisé à 97 voix contre 2 l'entrée potentielle du Monténégro dans l'OTAN. Donc ce qu'on vient de voir, c'est en préalable, et effectivement le Monténégro fait partie des États qui sont en train de négocier avec l'OTAN le chemin vers l'accès et vers l'inclusion dans l'OTAN, avec la Bosnie-Herzégovine, avec la Macédoine, avec la Géorgie. Fait partie, et je cite le site de l'OTAN, fait partie des pays qui sont en discussion actuellement, je cite le site de l'OTAN. Et le Monténégro vient donc de franchir la barre, ça aurait fait désordre que le Monténégro demande son accession à l'OTAN, se le voit et un avis favorable, et que derrière le Sénat des États-Unis refuse. Donc le Sénat des États-Unis vient de donner son accord vers peut-être, effectivement, l'entrée d'un 29e État au sein de l'OTAN, d'un élargissement de l'OTAN. C'est exactement à 180 degrés ce que beaucoup d'observateurs ont compris pendant la campagne. Personnellement, vous le savez, je n'ai jamais pensé que l'obsolescence de l'OTAN dans la bouche de Trump, ça voulait dire autre chose que modernisation et argent vers la défense. Sa nomination du général Mattis, ancien responsable de l'unité de transformation et donc de modernisation de l'OTAN à Norfolk, en Virginie, était suffisamment symbolique pour nous dire que l'OTAN allait devenir une priorité.
Steven Ekovic.
Absolument. Encore une fois, je crois qu'on voit un président qui n'a pas grande emprise sur la politique étrangère. C'est le Pentagone, c'est à la limite aussi les corps diplomatiques professionnels, mais aussi, il ne faut pas jamais oublier, le Sénat américain a beaucoup de pouvoir en politique étrangère, surtout dans la ratification des traités.
Plutôt rassurant pour l'Europe. Finalement, on peut continuer à compter sur l'OTAN.
À condition de payer.
Si on paye.
Si on paye.
À condition de payer.
Même, ça c'est une continuité aussi. Depuis longtemps, les Américains demandent aux Européens de payer leur part. Donc ça, c'est pas une nouveauté non plus.
Ils le font de façon plus, plus lourde.
Ils le font façon Trump. Oui.
Born down in a dead man's town. First kick I took was when I hit the ground. You end up like a dog that's been beat too much. Then you spend half your life trying to cover it up. Born in the USA. Born in the USA.
Merci beaucoup à tous d'avoir été ce matin avec nous. Annick Cizel, je rappelle, maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Steven Ekovic, professeur à l'université américaine de Paris. Mais aussi Marc Semo, notre partenaire du Monde. Merci beaucoup Marc. On va prolonger un petit peu toutes les discussions qu'on avait. Vous allez voir, puisqu'on accueille tout de suite Brice Couturier et son Monde des Idées.
Le tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Et qu'on ne va pas quitter la politique américaine. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Dans quel état est le conservatisme aux États-Unis? Quelles sont les familles d'esprit qu'on peut y repérer? De quel poids pèsent ces différentes tendances au sein du Parti républicain? Voilà les questions que vous posez.
Et oui, que reste-t-il du conservatisme américain après Donald Reagan? Son axe central, cet alliage entre conservateurs traditionnels et libertariens, ce fusionnisme théorisé par la National Review, a volé en éclats. Or, c'est le cocktail qui avait permis au Parti républicain de dominer la scène politique durant les années 80 avec Ronald Reagan. Sur quoi était bâti le fusionnisme? Reportons-nous à ce qu'en disait il y a quelque temps le site libertarien Cato Institute. Avec les conservateurs, nous avons en commun, disaient les gens du Cato, la volonté de défendre la liberté individuelle. Nous prenons un gouvernement limité et des marchés libres. Nous sommes donc des alliés naturels. Mais lors d'un débat organisé en 2015 par le même Cato avec des représentants du think tank conservateur Heritage Foundation, on voyait déjà les limites de cette alliance apparaître. En politique étrangère et de sécurité, les divergences étaient très nettes. Les libertariens ont vigoureusement dénoncé le Patriot Act de George W. Bush, alors que les conservateurs estimaient que la sécurité intérieure pouvait justifier un renforcement de la surveillance policière et des mesures exceptionnelles. Sur l'immigration, il y avait aussi des désaccords profonds. Les libertariens sont pour la liberté de circulation et d'installation, les conservateurs au contraire veulent préserver le caractère purement américain de leur nation. Les libertariens sont favorables à la dépénalisation de la consommation et de la vente des drogues. Ils s'opposent aux restrictions mises au choix de son mode de vie par chacun, pour autant que ce dernier demeure sans effet sur autrui. Les conservateurs, au contraire, ne partagent pas du tout ce libéralisme moral. Idem sur la question du mariage, que les conservateurs veulent renforcer dans l'intérêt des enfants, alors que les libertariens refusent qu'on cherche à imposer les mœurs majoritaires. Autre différence de taille, les conservateurs veulent renflouer les communautés religieuses au nom de la cohésion de la société, alors que les libertariens sont normalement athées et hostiles aux religions. Alors ce fusionnisme, on le voit, menacé, avait déjà vécu à l'époque de la présidence de George W. Bush. Ce dernier préférait faire référence non pas au fusionnisme, mais au conservatisme compassionnel qui fut aussi revendiqué un peu plus tard par David Cameron au Royaume-Uni. Une idéologie résumée ainsi par un des auteurs des discours de l'ancien président républicain, Michael Gerson. Le conservatisme compassionnel est une théorie selon laquelle le gouvernement doit encourager la fourniture effective des services sociaux, mais sans l'assurer lui-même. D'inspiration chrétienne, c'est une doctrine qui encourage en effet les associations à prendre en charge les problèmes sociaux dans la mesure où on estime que l'État n'en a plus les moyens ou que de toute façon il le fait fort mal.
Et alors qu'est-ce qui l'a remplacé dans l'idéologie conservatrice, Brice ?
Eh bien, ces dernières années est apparue une nouvelle tendance, le « reform conservatism ». Les Reform Cons ont acquis une certaine influence au sein du Parti républicain et c'est Marco Rubio qui portait leur couleur au cours de la primaire républicaine. Ils ont très mal pris, bien sûr, la victoire de Donald Trump. Alors tout est parti d'un essai publié en 2008 par Ross Douta du New York Times et Rehan Salam de la National Review intitulé « Grand New Party ». Ces jeunes essayistes estimaient que le Parti républicain conservait un programme destiné en fait à satisfaire les riches, alors que les ouvriers pesaient d'un poids de plus en plus prépondérant dans son électorat. Son programme était obsolète, il datait des années Reagan. Les cols bleus n'avaient rien à faire des réductions d'impôts des riches, de la promotion du libre-échange ou des dérégulations, ni même de la promesse de faire fondre le Léviathan fédéral. Ils appelaient donc ces jeunes gens à prendre en considération les inquiétudes spécifiques des nouveaux électeurs républicains, leur anxiété raciale, la stagnation de leurs salaires, la multiplication des divorces, la fragilisation des familles, les ravages de la drogue et du suicide parmi les blancs pauvres et ainsi que les bourbiers dans lesquels les États-Unis s'étaient empêtrés en Irak et en Afghanistan. Ils recommandaient deux directions politiques. En politique étrangère, un conservatisme d'intérêt national et la fin de l'interventionnisme libéral prôné par les néo-conservateurs. En politique intérieure, la solidarité nationale par le renforcement des programmes sociaux ainsi que des allègements d'impôts spécifiques pour les familles. Enfin, il préconisait une politique de l'immigration visant à attirer les qualifications. Alors évidemment, vous l'imaginez, la défaite de Marco Rubio a été celle des Reform Cons, mais il compte encore de nombreux partisans au Congrès et c'est pourquoi ses promoteurs misent franchement sur l'échec de Trump. Signalons aussi les Crunchy Conservatives ou conservateurs croustillants, plus anecdotiques. Ils tirent leur inspiration d'un livre publié par Rod Dreher, éditorialiste à The American Conservative. Il s'agit d'une tentative paradoxale de s'inspirer de la contre-culture et de l'écologie dans le but de renouer avec l'Amérique des pères fondateurs. On y prône le retour à une vie frugale, l'éducation des enfants dans le cadre familial afin de les faire échapper à l'endoctrinement par l'école publique. Ça rencontre un certain écho dans le Parti républicain, puisque Rand Paul s'en réclame explicitement. Il se vante qu'en tant que crunchy conservateur, il produit son propre compost, il fait du vélo et du kayak. Il ne manque plus que le tipi dans le jardin et le port de la barbe quand des conservateurs proches du Tea Party se prennent pour des hippies.
Voilà ces conservateurs croustillants, ces reform guns aussi, qui sont voilà, des ennemis politiques de Donald Trump. Merci beaucoup Brice Couturier. On peut retrouver votre chronique bien sûr sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.